France Guimard-Roche vous propose une promenade estivale pour aller flâner du côté du château de Ferrières jusqu'à l'hôtel Lambert sur une île à Paris avec Marie-Hélène et Guy de Rothschild, un couple romantique à souhait. Dans son livre « Contre bonne fortune », le baron Guy compte les bals de son épouse Marie-Hélène, qu'elle imaginait, organisait avec le plus grand talent. Le bal Proust pour l'anniversaire du centenaire de l'écrivain m'a laissé les plus beaux souvenirs. J'en retrouve l'exacte atmosphère dans un récit consacré aux grandes fêtes parisiennes et qu'on me pardonnera d'emprunter. En décembre 1971, Marie-Hélène de Rothschild reçut d'un de ses amis une lettre ainsi tournée. Il était temps. L'année Proust allait s'achever dans la grisaille, les conférences, les expositions, les discours, les colloques, l'ennui et le froid, tout ce qu'il détestait. Et tu as eu l'idée simplement géniale de donner en son honneur un bal. Un bal en l'honneur de Marcel Proust, qui n'avait jamais fait de son vivant dans ce grand monde qu'il a immortalisé qu'une modeste carrière de bout de table. Et quel bal ! Venu des quatre coins du monde, la beauté, la noblesse, le pouvoir, le talent, la fortune, l'esprit, le grand faste dont on croyait qu'il avait été le dernier témoin. Tu as ajouté un très joli chapitre à son œuvre en nous faisant revivre pour un soir un temps que l'on pensait à tout jamais perdu. Bravo, je t'embrasse. Ainsi, il y eut bal à Ferrières. À Ferrières, dans les murs depuis le début de ce siècle, on vit défiler aux cours de chasse, de réceptions brillantes ou de réunions intimes, toutes les personnalités qui ont aspiré à la recherche du temps perdu. Quel cadre pouvait davantage ressembler aux descriptions du grand écrivain, au cœur de cette brie, où Proust a trouvé la plupart des noms de son roman, en cette saison brumeuse et nostalgique, où les fêtes les plus brillantes sont teintées d'une légère mélancolie. On grava donc un carton suranné, priant à dîner ce soir-là les descendants des héros proustiens. aristocrates et diplomates, banquiers et royautés, académiciens et ministres, artistes et gens du monde, de Paris et d'ailleurs, on pria les messieurs de porter un habit et les dames de parer leurs coiffures de plumes, de bijoux ou de fleurs. Les invités répondirent avec enthousiasme. On n'avait pas vu depuis bien longtemps une foule de 800 invités parée avec une telle recherche et un tel luxe de détails élégants et subtils. Il fallait aller du côté de Guermantes, du côté de Ferrières. Il me faut vous parler ici d'un article récent écrit par Isabelle Girard pour Madame Figaro. Ralph Lauren, l'élégance du cœur. En amoureux de Paris, le couturier américain finance la restauration de l'amphithéâtre d'honneur de l'École des Beaux-Arts. Il aime l'histoire. Ralph Lauren aime Paris aussi. Ralph Lauren et son groupe ont décidé de restaurer l'amphithéâtre d'honneur de l'École des Beaux-Arts de Paris, où étaient autrefois distribués les prix de Rome. Il aura fallu que le couturier américain foule le sol des salons de l'ancien hôtel particulier de la comtesse Élisabeth de Riquet de Caramanchimé, qui servit à Marcel Proust de modèle pour sa duchesse de Guermantes. Qu'il entrevoit le jardin où l'été, après le dîner, cette dernière faisait servir des liqueurs et des orangeades pour être envoûtée par les lieux, la hauteur des fenêtres, les dorures, le mobilier bleu roi un peu passé et les grandes bibliothèques.
Just the way you look tonight. With each word your tenderness grows, tearing my fear apart. And that laugh that wrinkles your nose touches my foolish heart. Oh lovely, never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Please arrange it, 'cause I love you. just the way you look today.
On arrive au château par une longue allée bordée d'immenses arbres effeuillés. À chaque fenêtre de la façade embrumée scintille un lustre de cristal. 8 énormes torches cernent l'entrée monumentale, devant laquelle défilent au pas les précieuses limousines d'où sortent, encore emmitouflées de fourrure, des personnages surgis du passé. On gravite un escalier d'honneur à double révolution, orné de palmes et de verdure. 20 tziganes en uniforme rouge donnent la sérénade aux belles invitées qui, délaissant leur cape, apparaissent dans l'éclat de leur parure du soir. On vous remet à l'entrée un carton portant écrit à l'encre violette un nom proustien, Swann, Odette ou Gilberte, Verdurin, Charlus ou Saint-Loup, qui indique chaque table du dîner. On longe un long couloir mystérieux, éclairé seulement par les flambeaux des valets en livrée rouge et perruques poudrées, et l'on arrive enfin, ayant souvent glissé à l'oreille de l'aboyeur un nom retrouvé, duc ou duchesse de Guermantes, marquis et marquise de Villeparisis, prince des Laumes, devant les maîtres de séance, lui, habit et moustache grise, elle, dans une longue robe de satin clair créée par Saint-Laurent, dans le salon des tapisseries à l'atmosphère rouge et rose. On s'avance à travers le salon bleu, puis le grand salon de musique. Tout est intact, meubles, tapisseries, objets, miroirs, seuls d'étonnants bouquets de fleurs pâles ou blanches, des jaillissements de palmes et de verdure rappellent la fête. Le ton monte, la foule se fait plus dense, on entend à peine le pianiste jouer du Reynaldo Hahn ou du Satie. On arrive difficilement à s'approcher des deux plans de table mauve et vert pour y repérer sa place à dîner. On a un peu perdu l'habitude de ne pas marcher sur les traînes. On s'exclame devant les costumes inventés par les amis. Il fait bon, tout brille, le dîner est servi.
Thank you.
On pénètre alors dans la plus splendide serre, le plus gigantesque jardin d'hiver jamais vu. La baronne Guy, les artistes Jean-François Daigre et Valérian Ribard ont fait ceinturer le hall colossal du château d'une extraordinaire forêt, composée de milliers de plantes et de fleurs exotiques, visibles au travers d'immenses verrières de treillage. Pour ramener à plus d'intimité cette pièce aux dimensions de cathédrale, on a drapé le plafond de soie verte, retenu en son centre par un énorme lustre de cristal. Les orchidées, les lianes, les verdures courent partout sur les ors, sur les colonnes, sur les statues et les bustes. 350 personnes ont réussi à retrouver leur table, dont chaque détail de raffinement se découvre peu à peu. D'abord les noms proustiens, écrits sur des éventails mauves noués de rubans violets. Ensuite, les nappes de mousseline plissées mauves. Les serviettes de linon mauve bordées de dentelles blondes. Et les ravissants surtout de cattleya mauve et violet, la fleur favorite d'Odette. Les menus écrits à l'ancienne, annonçant des plats mystérieux et des vins glorieux. Consommer Aurélie, mousseline de sol, Mahe nu. Canard à la madrilène, salade Clarinda, soufflé glacé Agénor, château Lafitte Rothschild, mouette et chandon, château d'Yquem. Le dîner est servi par une armée de maîtres d'hôtel en habit rouge Louis XV. Il passe comme un rêve, chaud, délicieux, rapide, tandis qu'une légère musique tzigane tourne les têtes et les cœurs. Vers minuit arrive la deuxième vague d'invités. Les jeunes amis du fils du maître de la maison, jeunes gens superbes, arrogants ou légèrement guindés dans leur habit ou uniforme d'époque, jeunes filles et jeunes femmes étincelantes, hérissées de ruches, de plumes et de joyaux. On va danser dans le plus étonnant nightclub qui soit, la ténébreuse salle à manger du château, éclairée seulement par les reflets de son extraordinaire suite de panneaux de cuir de cordoue à fond or. D'après les cartons de Rembrandt, orchestre moderne, petite table drapée d'or et de verre, clignotement des veilleuses. De bouche à oreille circule le bruit qu'une surprise attend les invités dans un petit salon encore inexploré. Là, devant une immense toile peinte à l'ancienne représentant le château, sont disposées une chaise Napoléon III, un guéridon et un palmier en pot. On peut s'asseoir et poser par couple ou par groupe devant un bel appareil de photographie 1900. Le photographe, qui n'était autre que Cecil Beaton, toujours en costume d'époque et caché sous son drap noir, tire le portrait, qu'on enverra plus tard en souvenir, au privilégié d'une nuit magique. On retourne à la grande serre qui, par miracle, s'est transformée en salle de bal. Immense buffet mauve garni de cattleyas, avec en leur centre de gigantesques pièces montées de petites madeleines et de violettes en sucre. Valses oubliées, polka, mazurka, on retourne danser quelques danses modernes, on retraverse des salons, on valse encore. Les sourires des femmes disent peut-être que chacune ce soir se croit duchesse de Guermantes. C'est l'aube. Le grand lac transparaît sous les brumes. Les tziganes vont se taire. Il faut quitter le rêve.
Autour de minuit, je tonne parfois rancard à ma bonne étoile, la plus belle des stars. Elle est en retour, bien sûr, cette étoile au baiser d'azur. Ne t'inquiète pas, passons.
joli temps perdu. Au petit matin, tandis que je quittais la fête, une profonde nostalgie m'envahissait. J'aurais voulu, moi aussi, pouvoir dire, comme allait l'écrire Philippe Baer. Toutes ces aigrettes, ces feuillages, cette profusion de cattleya m'ont autant grisé que la poursuite des ombres. Bien en chair, des jeunes filles et femmes en fleurs, quelle admirable fête! Il m'aurait fallu 1000 monocles pour tout regarder et 1001 nuits pour épuiser mon plaisir. L'auteur, en conclusion de son chapitre, écrivait encore « En ce temps-là, les bals faisaient les grandes heures de l'art de vivre. Pour moi, c'était autant de voyages parmi les fées et les rêves, les souvenirs enchantés. La vie, un instant, s'arrête, repart en arrière et nous émerveille. » Des mondes engloutis surgissent de nouveau. On peut juger, critiquer, haïr même, quand on ne sait pas que l'éphémère peut défier l'éternité et que rien ne peut ni ne doit être plus beau que l'éphémère. J'ai parlé de ces bals comme dans un livre d'histoire, on ressuscite un monde disparu, avec peut-être un sentiment plus nostalgique encore, car il ne me concerne pas seulement. Une époque s'en va, avec les temps qui viennent, emportant avec elle un certain art de vivre, sentiment de l'inexorable. Les humains savent créer des merveilles, ils oublient parfois de les faire vivre. On sait aujourd'hui qu'un homme devient fou quand on l'empêche de rêver. On sait qu'il finit même par mourir si l'on prolonge l'expérience. Les sociétés meurent aussi, on le savait, peut-être parce qu'on a tué leurs rêves. Marie-France Guimard Roche vous quitte à regret et espère que vous avez aimé la promenade estivale et nostalgique du côté de chez Swann, du côté de Ferrières et de l'hôtel Lambert. Ces émissions étaient enregistrées et réalisées par Émilie Glory dans les studios du Rocas de Radio Grand Ciel.